Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Vous connaissez tous la marque au swoosh, autrement dit Nike. Le cas Nike a été étudié dans les Paradise Papers, notamment parce qu'il est représentatif des politiques d'optimisation fiscale des multinationales. Représentatif, mais pas simple à comprendre. Donc on va faire un peu de pédagogie. Bonjour Mirko Ayad, vous êtes professeur en droit fiscal affilié à HEC Paris. Expliquez-nous comment Nike fait pour payer moins d'impôts.
Bonjour Guillaume. Ce schéma est à peu près connu depuis quelques années maintenant. Et c'est un schéma qui met en réalité en présence quatre pays. Une société américaine. Mm-hmm. Cette société américaine va concéder ses droits à l'image, à la marque, etc. à une société qui est aux Bermudes. Uh-huh. Une société irlandaise qui exerce aux Bermudes. Et elle a à la fois ce double statut d'Irlandaise et Bermudes.
Donc déjà, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'en fait, la marque est détenue par une société donc aux Bermudes de droit irlandais. Continuez, Mirko Ayad.
Et donc, on va avoir une société qui, elle, est basée en Irlande et qui va être chargée, elle, de recueillir l'essentiel du chiffre d'affaires du fait de la conception du groupe. Et il faut un quatrième pays, il faut les Pays-Bas, mm-hmm. parce que le fisc irlandais va autoriser plus ou moins tacitement le transfert d'une redevance de l'Irlande vers les Pays-Bas, parce qu'il n'y a pas de retenue à la source sur ces sommes qui sont transférées de l'Irlande vers les Pays-Bas. Et ensuite, dernier point, les sommes peuvent sortir des Pays-Bas vers les Bermudes, là aussi sans imposition, parce que le droit des Pays-Bas est conçu ainsi. Les sommes sont après aux Bermudes et elles y restent sans imposition, puisque au niveau américain, seules les sommes rapatriées vers les États-Unis sont taxées. Donc on peut laisser ces sommes comme ça sans imposition.
Donc si je comprends bien, Mirko Ayad, le principe qui est utilisé par Nike consiste à prélever une bonne partie de l'argent qui est réalisé en France, parce que s'il restait en France, évidemment, la société paierait des impôts. Donc cet argent, il va dans un circuit financier assez complexe, des Bermudes en passant par l'Irlande et les Pays-Bas, où là, il y a une fiscalité plus clémente. Tout cela est absolument légal.
Alors, sous réserve que les transactions soient effectuées au bon prix, ces transactions sont légales. Donc, sous réserve que les transactions soient effectuées au bon prix, c'est-à-dire que les facturations qui sont faites entre les États soient des facturations à des prix, ce qu'on appelle de pleine concurrence, mm-hmm. ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il ne faut pas non plus que les États, je pense notamment à l'Irlande, n'aient conclu des accords particulier avec une société particulière pour lui donner un régime fiscal privilégié.
Mais alors c'est ça justement qu'on peut interroger, parce que pour que les auditeurs comprennent, le principe de ces montages consiste à dire que des marques, surtout des marques qui possèdent des marques fortes comme Nike, vont devoir payer des royalties pour l'utilisation de ces marques. Et c'est évidemment un jeu d'écriture, puisque c'est Nike qui paye à Nike. Donc on voit bien qu'il y a une forme quand même de tour de passe-passe. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer ces sociétés en leur disant que ces royalties de marque sont des royalties en grande partie fictives, Mirko Ayad ?
Alors, c'est ce que dans le jargon des fiscalistes, on appelle les prix de transfert. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que la moitié des échanges internationaux aujourd'hui sont des prix de transfert, c'est-à-dire des prix intra-groupes, mm-hmm. comme vous dites, des sociétés qui se payent à elles-mêmes. Et donc, ça représente une masse considérable. Et le contrôle de ces prix est extrêmement compliqué. La plupart des États ont des moyens, je dirais, juridiques de les contrôler, mais après, il faut savoir comment évaluer le prix d'une marque. C'est extrêmement compliqué. On peut aussi, tout ce qui est incorporel est très compliqué à évaluer. Un brevet, par exemple, sur un médicament, évaluer le coût d'un brevet, le prix d'un brevet sur un médicament, un prix de pleine concurrence, alors que ce sont des objets qui, par définition, ne sont pas des objets courants, c'est extrêmement compliqué.
Alors c'est compliqué, mais il y a quand même des méthodes, et les méthodes, par exemple, consistent à savoir l'argent qu'on peut gagner à partir de ces brevets. Ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer. Il peut y avoir des contentieux fiscaux. Pourquoi le fisc français n'attaque-t-il pas Nike ? Puisqu'on voit bien que ces prix de transfert, comme vous dites, ces royalties prélevées, elles sont principalement prélevées pour permettre à Nike de ne payer aucun impôt en France. Pourquoi, dans ces conditions, le fisc n'entreprend-il pas une action pour dire ces sommes sont fictives, elles sont juste destinées à amenuiser le bénéfice réalisé en France ?
Alors, le problème réside dans le fait qu'elles ne sont pas fictives. Quand c'est fictif, c'est...
Je dis fictif, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à une activité économique réelle.
Oui, mais il n'empêche que la marque, ça a quand même une incidence sur le prix du produit. Et donc ça, il faut le rémunérer. Tout le problème est de savoir quelle est la rémunération pour cette marque. Et là, c'est extrêmement compliqué à calculer. Quand c'est fictif, et ça existe, là, c'est facile. On dit, c'est fictif, vous facturez quelque chose de fictif. Quand c'est quelque chose qui a une existence, mais dont on présume que le prix est surévalué, c'est plus compliqué parce que le fisc doit prouver. Il y a actuellement des contentieux qui ont été...
Par exemple, avec qui ?
Alors, par exemple, il y a le célèbre contentieux Google, où l'administration fiscale, dans un premier temps par le tribunal administratif de Paris, a vu son redressement rejeté par le tribunal administratif de Paris, parce qu'il n'était pas suffisamment, je suppose, motivé.
Pensez-vous qu'il soit possible, Mirko Hayat, de changer ces règles, qu'il soit possible d'empêcher une multinationale d'avoir des moyens de payer des redevances à elle-même, d'un pays à l'autre, en profitant de fiscalité plus clémente, alors même que le bénéfice, lui, il est réalisé dans un pays où les sommes ne sont pas taxées.
Alors, il y a un mouvement qui a été initié en 2008, après la crise financière. Les opinions publiques ne supportent plus ce type d'évasion ou d'optimisation fiscale, dans la plupart du temps, légale. Et donc, il y a un mouvement assez important, et notamment l'OCDE a pris des mesures. D'ailleurs, dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, on a vu qu'il y avait plusieurs pays qui étaient en cause. En réalité, on utilise les conventions fiscales qui sont conclues entre les États pour les utiliser le plus intelligemment possible. Et bien maintenant, l'OCDE vient de mettre en place un instrument multilatéral, une convention multilatérale, qui fait que l'essentiel de ces manipulations de diverses conventions vont être beaucoup plus difficiles. Il y a actuellement, en juin 2017, 71 États ont signé cette convention multilatérale. Je pense qu'on va aller vers 100 États qui l'auront signé. Et cette convention multilatérale sera applicable à partir de 2019. C'est un point extrêmement important. La Commission, au sein de l'Europe, la Commission européenne a aussi agi, puisqu'elle utilise aujourd'hui le critère des aides d'État pour condamner certains accords particuliers qui sont conclus entre des États et des entreprises en particulier.
Merci Mirko Hayat de nous avoir exposé ce mécanisme par lequel Nike fait de l'optimisation fiscale.